Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou HPN, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aubert, qui est concernée par cette maladie rare et qui est également membre actif de l'association HPN France, l'association de patients dédiée à l'HPN et à l'aplasie médullaire idiopathique. Madame Aubert, bonjour.
Bonjour.
Alors, Madame Aubert, ma première question est très simple et très directe. Quand et comment sont survenus les premiers symptômes de votre maladie ?
Alors, chez moi, les maladies se sont déclarées l'une après l'autre, c'est-à-dire que le premier diagnostic qui a été posé est celui qui concerne l'aplasie médullaire. Il a été posé en 2006, à l'été 2006, alors que le diagnostic d'HPN, dont on parlera probablement plus tard, a été posé quelques années plus tard. En 2006, les choses se sont passées de manière très progressive. Je venais juste d'avoir 30 ans. Je terminais une année scolaire pendant laquelle j'avais commencé un nouveau job qui était un travail passionnant de recherche, d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur. Et du coup, j'ai terminé l'année avec un niveau de fatigue assez élevé, mais en me disant que c'était très lié à cette nouvelle activité professionnelle. Et au cours de l'été, la fatigue, elle s'est creusée. Il y a d'autres symptômes qui sont apparus, comme des pétéchies, donc des petits signes hémorragiques au niveau de la peau. Et puis, progressivement, les symptômes de l'anémie sont apparus de plus en plus forts, c'est-à-dire que j'avais du mal à monter des étages sans être essoufflée. J'avais du mal à monter une côte. Et je voyais que les gestes de la vie quotidienne étaient de plus en plus difficiles. Cela dit, je me suis très peu alertée parce qu'en fait, j'étais quelqu'un en bonne santé et à aucun moment, j'avais imaginé que quelque chose de grave était en train de se passer. Et c'est seulement quand j'ai fait un malaise en voulant faire du tennis que j'ai décidé de consulter un peu en urgence un médecin généraliste. J'étais en vacances, en fait, j'étais en Haute-Savoie à ce moment-là. Le médecin généraliste a fait une prise de sang de contrôle et après la prise de sang, dans les quelques heures qui ont suivi, j'ai été rappelée en urgence par le médecin qui m'a dit « il se passe quelque chose, il faut que vous soyez hospitalisée ». Donc il y a eu quelque chose de très, quelque chose de très progressif, en tout cas que moi j'ai perçu comme très progressif, dont je n'ai pas vraiment réussi à lire les signes sur le moment. Et puis à un moment donné, il y a eu un basculement extrêmement brutal, puisqu'en quelques heures, je suis passée de « je viens d'avoir 30 ans, je suis en vacances, tout va bien, je démarre un nouveau job », plein de choses très positives, à une hospitalisation en urgence, des premières transfusions, et clairement l'attente d'un diagnostic de quelque chose de sévère qui allait s'annoncer.
Alors justement, vous nous l'avez précisé en introduction, d'abord vous avez été diagnostiqué d'une aplasie et ensuite d'HPN. Mm-hmm. Comment s'est opéré le changement de diagnostic de l'aplasie vers l'HPN ?
Alors c'est pas tout à fait un changement de diagnostic, c'est un ajout de diagnostic puisque c'est une deuxième maladie qui s'ajoute à la première. Ces deux maladies, elles sont très souvent associées. Donc, je savais que ça pouvait m'arriver, mais assez étrangement, je crois que je m'étais dit que ça n'allait pas me concerner. C'était une posture complètement irrationnelle, hein, mais c'est comme si j'avais décidé que l'aplasie, ça allait suffire et que ça s'arrêterait là. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Et là aussi, ça a été très progressif. Je pense pas qu'on puisse parler d'une errance diagnostique en tant que telle, parce que j'ai été suivie, depuis le premier diagnostic de l'aplasie, j'ai été suivie dans plusieurs centres spécialisé. Et à l'époque de ce deuxième diagnostic, j'étais suivie je suis toujours d'ailleurs suivie à Lille, qui est un centre de référence régional. Donc, c'était pas tant une errance diagnostique qu'une difficulté diagnostique dans la mesure où, pour moi, les signes de l'HPN n'étaient pas franchement caractéristiques. C'est-à-dire que je présentais pas la triade urine noire liée à l'hémolyse, douleur abdominale et éventuellement thrombose. Le tableau, il était plus à bas bruit. Et c'est mon hématologue qui m'a dit qu'il lui avait fallu compiler un ensemble de symptômes qui paraissaient dissociés pour se dire que finalement, la seule manière de les réunir, c'était de poser le diagnostic d'HPN. C'est-à-dire que j'avais des signes biologiques, donc dans la prise de sang, des signes d'hémolyse. J'avais une fatigue très, très invalidante et très persistante et aussi une anémie qui ne se corrigeait plus avec les traitements de l'aplasie médullaire. En plus de ça, quelques années plus tôt, lors de ma deuxième grossesse, en 2015, j'avais fait une pré-éclampsie et un HELLP syndrome qui pourrait peut-être aussi être lié à une HPN qui n'avait pas encore été diagnostiquée. Donc c'est en associant tous ces symptômes qui pouvaient paraître, pas reliés entre eux, que mon hématologue, encore une fois, vraiment spécialisé dans ces pathologies rares, a pu poser le diagnostic d'HPN. Ça a été un diagnostic donc complexe et auquel je ne m'attendais pas du tout sur le moment. Donc ça a été là aussi assez brutal comme annonce.
Alors justement, comment est-ce que vous avez vécu l'annonce de ce diagnostic d'HPN, qui est une maladie rare ?
Alors, je pense que je l'ai peut-être vécu plus difficilement que l'annonce de l'aplasie, pour tout un tas de raisons. Au moment du diagnostic de l'aplasie, de toute façon, j'étais dans un état de fatigue tel que finalement, les informations n'étaient pas vraiment reçues de la même manière, déjà sur le plan cognitif, quoi. Il y avait une fatigue aussi intellectuelle, je pense. Au moment du diagnostic de l'HPN, je savais aussi beaucoup plus ce que ça voulait dire que d'être atteinte d'une maladie chronique. Ça faisait déjà une douzaine d'années que je me bagarrais avec ça. Et puis, comme je viens de l'expliquer, je ne l'avais pas du tout vu venir, en fait. Et dans un coin de ma tête, c'est ça, comme je l'ai dit, j'avais un peu décidé que ça n'allait pas me concerner. Donc, ça a été brutal et ça a été un coup de massue, hein, très franchement. Alors, là où ça a été malgré tout possible de l'entendre, c'est que pour cette deuxième pathologie, mon hématologue m'a tout de suite parlé de la possibilité d'un traitement dont j'avais déjà entendu parler, qui est un traitement relativement récent pour les HPN. Et il a évoqué la possibilité que ce traitement non seulement lève le risque thrombotique, qui est quand même le risque majeur pour les patients HPN, mais aussi que ce traitement puisse avoir un impact sur la fatigue, qui pour moi était l'ennemi numéro un en fait, avec lequel je cohabitais depuis des années. Et donc finalement cet espoir que possiblement ce symptôme permanent et très difficile pour moi puisse éventuellement se corriger un peu... quelque part, ça m'a permis de rebondir. C'est-à-dire qu'il y avait la mauvaise nouvelle du diagnostic, mais il y avait la bonne nouvelle que peut-être, grâce au traitement, quelque chose de la vie quotidienne allait pouvoir s'améliorer.
Alors aujourd'hui, Madame Aubert, vous êtes membre active de l'association HPN France. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche ?
Alors justement, c'est intéressant de faire le lien avec le traitement, parce que l'association, je la connaissais depuis mon premier diagnostic de l'aplasie. L'association, elle a été créée en 2004. Moi, j'ai été diagnostiquée en 2006. Donc, c'était les tout débuts de l'association quand je me suis adressée à elle. Et très clairement, pendant de nombreuses années, l'association a été une ressource pour moi. Voilà. C'était pas possible pour moi de m'y engager plus activement que ça parce que, encore une fois, cette fatigue pesait tellement que, toutes mes activités professionnelles, familiales, extra-professionnelles étaient extrêmement réduites. Il y avait quelque chose de l'ordre de minimum syndical en fait sur tous les plans dans ce que je pouvais faire de ma vie. Et à partir du moment où le traitement a commencé à faire effet, j'ai repris la main sur pas mal de choses de ma vie et j'ai souhaité aussi contribuer en fait, voilà, faire un peu ma part dans l'association après en avoir bénéficié en fait. Voilà, donc les deux domaines dans lesquels j'ai souhaité m'engager, ce sont des domaines dans lesquels je me sens compétente. Le premier, c'est l'activité d'écoute téléphonique que propose l'association, puisque je suis psychologue, donc ça c'est quelque chose que je peux faire. Et le deuxième domaine dans lequel j'ai souhaité m'engager, c'est celui de la coopération internationale, c'est-à-dire que depuis quelques années, l'association HPN France s'est engagée dans un travail de création d'une alliance globale, donc internationale, des associations de patients HPN à travers le monde. Donc ça, c'est une démarche nouvelle et assez importante, assez excitante en fait, de se dire que on construit quelque chose qui a un impact à l'échelle internationale et qui donne plus de force du coup à la voix des patients de cette maladie rare. Ce que je fais un petit peu dans l'association, avec avec plusieurs autres membres très très actifs. Mais l'association, elle a d'autres missions et d'autres activités que seulement ces deux-là.
Alors justement, plus généralement, quels sont les objectifs de l'association HPN France ?
Si j'avais à donner déjà la grande finalité de l'association, je pense que c'est vraiment d'être un acteur de santé publique. Et d'être une source et une ressource pour les patients et les proches. Un acteur de santé publique, ça veut dire que l'association, elle collecte des fonds pour participer au financement de recherches sur la l'aplasie médulaire et l'HPN. Ça veut dire aussi que l'association est en lien avec les institutions médicales françaises avec les équipes médicales, avec les laboratoires pharmaceutiques pour faire entendre là aussi la voix des patients. Ensuite, sur le plan du lien avec les patients et les familles, l'association, elle partage de l'information, elle soutient et elle développe les liens entre les patients et les familles en eux-mêmes. C'est-à-dire que on organise des moments de rencontre, des journées nationales d'information, des déjeuners parfois, il y a un forum de discussion. Et donc, il y a ce service d'écoute téléphonique qui permet d'apporter du soutien.
Alors, on arrive au terme de notre entretien, Madame Aubert. Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer ou à retenir, quel serait-il ?
Je crois que le message qui me paraît le plus important à faire passer, c'est celui qui dirait que la parole des patients est très importante. C'est-à-dire que on n'est pas seulement des objets de soins, de traitements, on est aussi des sujets experts de notre expérience de la maladie. Et je pense que ça fait de nous des acteurs importants de la prise en charge médicale et de la recherche. J'ai parlé tout à l'heure de la fatigue. La fatigue, c'est vraiment un symptôme caractéristique de nos deux pathologies, aplasie et HPN. C'est un symptôme pour lequel, malheureusement, la médecine, pour l'instant, a finalement peu de réponses. Et ça fait bien souvent que c'est un symptôme qui n'est pas forcément entendu, pris en compte, qui est parfois même un peu disqualifié ou invalidé par certains soignants qui peut-être ne connaissent pas très bien la maladie, parfois aussi par le milieu professionnel ou parfois même malheureusement par les proches. Je trouve que c'est vraiment un exemple de sujet sur lesquels les patients ont des choses importantes à dire et ça me paraît vraiment extrêmement important de nous écouter. Et peut-être que ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que cette parole des patients de maladies chroniques en général, elle me paraît d'autant plus intéressante à écouter aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, et que finalement, on est tous, vous êtes tous, vous aussi, en train de vivre sur le plan sociétal, sur le plan collectif, ce que nous, on vit bien souvent très seuls, depuis des années parfois, de manière très individuelle avec nos maladies chroniques. C'est-à-dire que ces épisodes de confinement ou d'enfermement, d'inquiétude, les incertitudes par rapport à l'avenir, les menaces sur l'activité professionnelle, sur la vie familiale, toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous, les patients de maladies chroniques, on connaît très bien. Et je me dis que là aussi, ça pourrait être vraiment intéressant que cette expérience, cette expertise presque que nous on a des situations de santé compliquées, elle soit particulièrement entendue et valorisée peut-être aujourd'hui dans cette situation qui nous touche tous, cette situation très très exceptionnelle. Voilà, donc le message que j'ai à faire passer, c'est vraiment celui de la valeur de l'expérience et de la parole des patients.
Eh bien, merci mille fois, Madame Aubert, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à l'HPN. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la chaîne Rare à l'écoute pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.